Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Конкурс понимания устного текста.
Compréhension de l'oral. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. Vous lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes. Vous écoutez maintenant l'enregistrement.
France Inter, un monde nouveau.
À quoi ressemblera la médecine du futur? Il en est persuadé, les progrès de l'intelligence artificielle vont bouleverser dans les années qui viennent notre rapport à la santé. Bonjour Jean-Emmanuel Bibeau.
Bonjour.
Vous êtes radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou, professeur à l'université Paris-Cité, chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l'INSERM, auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. Vous êtes plutôt optimiste, Jean-Emmanuel Bibeau. Vous écrivez, nous sommes en passe d'inventer les machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. On a envie de vous demander, mais c'est pour bientôt, c'est pour quand ?
Ouais, alors une des raisons d'avoir écrit, enfin pour avoir écrit ce livre, c'était justement de changer un peu du discours, qui est plutôt un discours un peu pessimiste par rapport à l'IA, où on a en tête des schémas un peu issus de la pop culture, type Terminator, Matrix, etc. Donc j'avais envie d'expliquer au contraire que il y avait des raisons de penser que ça allait nous faire beaucoup de bien, sans non plus être complètement idéaliste et naïf. Hein. Mais une des raisons, c'était ça. Et donc il faut bien comprendre que l'IA, ça va être un outil. Un peu comme quand le scanner est apparu ou quand l'IRM est apparu, des outils très puissants qui ont vraiment changé la prise en charge des patients. Et l'IA, ça va être la même chose, ça va être un outil dans l'arsenal dont dispose le médecin.
Alors vous expliquez qu'il existe déjà des dispositifs médicaux, 240 aujourd'hui, qui ont été approuvés en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est appliquée par les médecins ?
Alors il y a de très nombreux domaines. Les principaux domaines actuellement, ce sont les domaines qui sont liés plutôt à l'imagerie, c'est-à-dire à des tâches de perception, de l'analyse d'images, donc en radiologie. Il y a aussi, par exemple, des IA qui permettent d'analyser la radio de fracture de cheville, par exemple, si vous êtes fait mal à la cheville, pour voir si c'est plutôt une entorse ou une fracture. Ce qu'il faut distinguer, je pense, quand on parle d'IA appliquée en médecine, c'est d'une part tout le domaine de ce que l'humain sait faire, dont on vient de parler, en gros, de l'interprétation d'images, d'interprétation de données, et puis tout ce que l'humain ne sait pas faire et ne saura probablement jamais bien faire, c'est-à-dire de la prédiction. C'est-à-dire savoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans, on a tous une idée, mais c'est jamais forcément très précis ni très pertinent. L'IA, elle, en général, elle vous donne une prédiction appuyée sur des données, des arguments, et justement, non seulement elle est capable de vous faire cette prédiction-là, mais en plus elle est capable de vous dire pourquoi elle fait cette prédiction-là, ce qui est important. C'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Et donc, sur tout ce domaine-là de la prédiction, et donc potentiellement de la prévention et de l'adaptation des traitements, c'est vraiment, à mon sens, là où l'IA va avoir l'intérêt le plus important en médecine. Si vous savez qu'il y a déjà de la synthèse, on va dire, personnalisée de médicaments, ça existe déjà. On peut imaginer un jour que vous alliez au distributeur dans la rue chercher vos médicaments qui seraient synthétisés pour vous, devant vous. C'est pas totalement délirant. Peut-être pas en 2041, mais d'ici peut-être deux décennies ou plus.
Il y a beaucoup d'exemples assez époustouflants dans votre livre. Vous parlez par exemple d'une application qui est pour le moment au stade de prototype, qui permettrait de photographier, voilà, à l'aide de son smartphone, sa peau, un grain de beauté suspect pour savoir s'il est dangereux ou pas.
Oui, alors en fait, c'est une étude qui a été publiée par une équipe de Stanford en 2016 déjà, donc ça fait déjà 7 ans, qui a montré les performances d'une IA comparées à des dermatologues bien humains, eux, et qui montrait que l'IA faisait aussi bien, voire mieux.
Alors, l'intelligence artificielle permettra d'améliorer la prévention, le diagnostic, les traitements, ça, on voit à peu près l'idée, mais alors, plus surprenant, vous dites, alors peut-être de manière un peu provocante, je ne sais pas, vous allez me dire, qu'elle pourrait manifester à l'égard des patients sans doute davantage d'empathie que certains praticiens. Expliquez-nous ça.
Ça, c'est assez intéressant parce que le livre, je l'ai écrit quasiment juste avant que le fameux ChatGPT sorte. Et depuis, ChatGPT a été évalué pas mal dans la médecine. Alors, vous savez que ChatGPT passe l'USMLE, c'est la partie écrite de l'examen américain de médecine, qu'il le passe très très bien à un niveau expert. Il est capable de déterminer des maladies sur une trentaine de tableaux de maladies à partir de simples symptômes. Il est capable de vous dire quelle maladie vous avez, mieux que les médecins. Les médecins font 65%, ChatGPT fait une fois plus 85%. Et là où ça devient encore plus étonnant, c'est qu'on a évalué dans une étude sortie récemment dans le JAMA, qui est un très grand journal américain, la capacité de ChatGPT à manifester une forme d'empathie, ou plutôt à simuler une sorte d'empathie, au cours d'une consultation. Et il s'est avéré que, a priori, il semblerait que ChatGPT fasse une meilleure empathie qu'un vrai médecin. Et donc, on n'est pas complètement, c'est pas complètement exclu qu'on puisse faire des IA qui, en fait, fassent presque mieux que les médecins, y compris sur ça.
Est-ce qu'il y a un domaine, Jean-Emmanuel Bibeau, en médecine, où vous pensez que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'être humain ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un domaine précis, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les activités, on va dire, manuelles, vous savez, on dit très souvent qu'en fait, l'IA peut remplacer des tâches, on va dire, intellectuelles relativement facilement, et encore, mais que toutes les tâches manuelles seront les tâches les plus compliquées à faire. Donc, probablement que, par exemple, des soins, tout simplement, au lit du patient, c'est-à-dire des choses très très classiques, hein, d'échanges, etc. L'IA ne va pas le faire demain la veille.
Merci beaucoup Jean-Emmanuel Bibeau. Et pour en savoir plus sur la médecine du futur et les enjeux qui accompagnent ces progrès, votre ouvrage, donc 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur.
Merci.
Vous commencez à répondre aux questions, vous avez 5 minutes. Vous écoutez l'enregistrement.
France Inter, un monde nouveau.
À quoi ressemblera la médecine du futur ? Il en est persuadé, les progrès de l'intelligence artificielle vont bouleverser dans les années qui viennent notre rapport à la santé. Bonjour Jean-Emmanuel Bibeau.
Bonjour.
Vous êtes radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou, professeur à l'université Paris-Cité, chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l'INSERM, auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. Vous êtes plutôt optimiste, Jean-Emmanuel Bibeau. Vous écrivez « Nous sommes en passe d'inventer les machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. » On a envie de vous demander, mais c'est pour bientôt, c'est pour quand ?
Ouais, alors, une des raisons d'avoir écrit, enfin, pour avoir écrit ce livre, c'était justement de changer un peu du discours, qui est plutôt un discours un peu pessimiste par rapport à l'IA, où on a en tête des schémas un peu issus de la pop culture, type Terminator, Matrix, etc. Donc, j'avais envie d'expliquer, au contraire, qu'il y avait des raisons de penser que ça allait nous faire beaucoup de bien, sans non plus être complètement idéaliste et naïf, hein. Mais une des raisons, c'était ça. Et donc, il faut bien comprendre que l'IA, ça va être un outil un peu comme quand le scanner est apparu ou quand l'IRM est apparu, des outils très puissants qui ont vraiment changé la prise en charge des patients. Et l'IA, ça va être la même chose, ça va être un outil dans l'arsenal dont dispose le médecin.
Alors vous expliquez qu'il existe déjà des dispositifs médicaux, 240 aujourd'hui, qui ont été approuvés en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est appliquée par les médecins ?
Alors il y a de très nombreux domaines. Les principaux domaines actuellement, ce sont les domaines qui sont plutôt à l'imagerie, c'est-à-dire à des tâches de perception, de l'analyse d'images, donc en radiologie. Il y a aussi, par exemple, des IA qui permettent d'analyser la radio de fracture de cheville, par exemple, si vous êtes fait mal à la cheville, pour voir si c'est plutôt une entorse ou une fracture. Ce qu'il faut distinguer, je pense, quand on parle d'IA appliquée en médecine, c'est d'une part tout le domaine de ce que l'humain sait faire, dont on vient de parler, en gros, d'interprétation d'images, d'interprétation de données, et puis tout ce que l'humain ne sait pas faire et ne saura probablement jamais bien faire, c'est-à-dire de la prédiction. C'est-à-dire savoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans, on a tous une idée, mais c'est jamais forcément très précis ni très pertinent. L'IA, elle, en général, elle vous donne une prédiction appuyée sur des données, des arguments, et justement, non seulement elle est capable de vous faire cette prédiction-là, mais en plus elle est capable de vous dire pourquoi elle fait cette prédiction-là, ce qui est important. C'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Et donc, sur tout ce domaine-là de la prédiction, et donc potentiellement de la prévention et de l'adaptation des traitements, c'est vraiment, à mon sens, là où l'IA va avoir l'intérêt le plus important en médecine. Si vous savez qu'il y a déjà de la synthèse, on va dire, personnalisée de médicaments, ça existe déjà. On peut imaginer un jour que vous alliez au distributeur dans la rue chercher vos médicaments qui seraient synthétisés pour vous, devant vous. C'est pas totalement délirant. Peut-être pas en 2041, mais d'ici peut-être 2 décennies ou plus.
Il y a beaucoup d'exemples assez époustouflants dans votre livre. Vous parlez par exemple d'une application qui est pour le moment au stade de prototype, qui permettrait de photographier, voilà, à l'aide de son smartphone, sa peau, un grain de beauté suspect pour savoir s'il est dangereux ou pas.
Oui, alors en fait, c'est une étude qui a été publiée par une équipe de Stanford en 2016 déjà, donc ça fait déjà 7 ans, qui a montré les performances d'une IA comparées à des dermatologues bien humains, eux, et qui montrait que l'IA faisait aussi bien, voire mieux.
Alors, l'intelligence artificielle permettra d'améliorer la prévention, le diagnostic, les traitements, ça, on voit à peu près l'idée, mais alors, plus surprenant, vous dites, alors peut-être de manière un peu provocante, je ne sais pas, vous allez me dire, qu'elle pourrait manifester à l'égard des patients sans doute davantage d'empathie que certains praticiens. Expliquez-nous
ça. Ça, c'est assez intéressant parce que le livre, je l'ai écrit quasiment juste avant que le fameux ChatGPT sorte. Et depuis, ChatGPT a été évalué pas mal dans la médecine. Alors, vous savez que ChatGPT passe l'USMLE, c'est la partie écrite de l'examen américain de médecine, qu'il le passe très très bien à un niveau expert. Il est capable de déterminer des maladies sur une trentaine de tableaux de maladies à partir de simples symptômes. Il est capable de vous dire quelle maladie vous avez, mieux que les médecins font 65%, ChatGPT fait une fois de plus 85%. Et là où ça devient encore plus étonnant, c'est qu'on a évalué dans une étude sortie récemment dans le JAMA, qui est un très grand journal américain, la capacité de ChatGPT à manifester une forme d'empathie, ou plutôt à simuler une sorte d'empathie,
oui, bien sûr,
au cours d'une consultation. Et il s'est avéré que, a priori, il semblerait que ChatGPT fasse une meilleure empathie qu'un vrai médecin. Et donc, on n'est pas complètement, c'est pas complètement exclu qu'on puisse faire des IA qui, en fait, fassent presque mieux que les médecins, y compris sur ça.
Est-ce qu'il y a un domaine, Jean-Emmanuel Bibeau, en médecine, où vous pensez que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'être humain ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un domaine précis, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les activités, on va dire, manuelles, vous savez, on dit très souvent qu'en fait, l'IA peut remplacer des tâches, on va dire, intellectuelles relativement facilement, et encore, mais que toutes les tâches manuelles seront les tâches les plus compliquées à faire. Donc, probablement que, par exemple, des soins, tout simplement, au lit du patient, c'est-à-dire des choses très très classiques, des changes, etc. L'IA ne va pas le faire de demain la veille.
Merci beaucoup Jean-Emmanuel Bibeau. Et pour en savoir plus sur la médecine du futur et les enjeux qui accompagnent ces progrès, votre ouvrage, donc 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur.
Merci.
Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. L'épreuve est terminée. Vous déposez maintenant vos stylos.